Info rapide. On est de plus en plus nombreux et nombreuses en tant que freelance et entrepreneurs solo à ne plus en pouvoir des discours entrepreneuriaux qui prônent la croissance, les 6 chiffres annuels, le fait de toujours en faire plus et plus et plus. On cherche des alternatives, d'autres manières d'entrevoir l'aventure entrepreneuriale et le fait de développer nos business, mais malheureusement, la plupart des offres d'accompagnement, de coaching ou de formation sont encore uniquement dans un prisme croissance business. En ce moment, on est en train de faire, comme chaque année, notre période de recrutement pour les 30 personnes qui rejoindront la promo de notre programme Surf. Le programme Surf, c'est un programme d'accompagnement sur 2 ans, donc pensé pour le temps long, pour t'aider à passer un cap dans ton aventure entrepreneuriale et ton business freelance, mais pas seulement sur le business. Notre pédagogie, elle repose sur 3 piliers. Le business, bien sûr, nous sommes des entrepreneurs et on veut développer nos entreprises. Le développement personnel, ce qu'on préfère appeler nous l'épanouissement individuel, parce que dev perso, c'est un terme qui a une connotation de moins en moins sexy. Donc tout le travail sur toi, la personne, être épanoui dans ton travail. Et le 3e pilier, c'est ce qu'on appelle la pensée systémique. C'est entrevoir le business en prenant en compte des sujets sociétaux hyper importants, comme l'écologie, le féminisme, la justice sociale, etc., etc. Cette liste est longue. Et donc, ce qu'on accompagne les gens à faire dans le programme Surf, c'est avancer dans leur processus et leurs projets entrepreneuriaux sans sacrifier leur épanouissement individuel et en prenant en compte les enjeux les plus importants de notre civilisation humaine. Si tu penses que ça peut te correspondre et que tu veux faire partie d'un groupe de gens qui te ressemblent pour un accompagnement sur le long terme avec 2 coachs à tes côtés, peut-être que le programme Surf est fait pour toi. Pour le savoir, je t'invite à te rendre sur surfenfreelance.com. Je répète, surfenfreelance.com, et tu peux prendre un appel avec nous et notre équipe pour en savoir un peu plus. Les portes sont ouvertes en ce moment. J'espère avoir l'honneur de te compter parmi les membres du groupe de cette année. Et sur ce, bonne écoute de l'épisode.
En tout cas, je sais qu'avec toi, on partage ça, mais je pense que c'est partagé par la majorité des êtres humains. On n'a pas envie que les autres se forcent, en fait. On a envie que les autres soient libres et enthousiastes. et c'est infiniment plus gratifiant, d'ailleurs, de recevoir un vrai oui enthousiaste que d'être avec... Ok, là, la personne, elle se force. J'ai obtenu ce que je veux, mais c'est pas de bon cœur, quoi.
Elle le fait à moitié, quoi.
Ouais. Et ça, c'est pas terrible, en fait, pour l'estime de soi et pour l'amour de soi. Donc, il y a un idéal et une volonté d'être en accord avec cet idéal où chacun, chacune est vraiment enthousiaste avec ce qui se vit ensemble, peu importe sur quel plan, aussi bien professionnel qu'amical que sexuel, que voilà. Mais il y a aussi en termes de stratégie, je pense que qu'il y a un vrai gain à permettre à aux personnes avec qui on est en lien de se sentir libre et en sécurité. Et un vrai gain à recevoir des vrais oui, plutôt que des oui un peu forcés, quoi.
Ouais.
Et à trouver des terrains d'entente, en tout cas sur le long terme, à court terme, si on est attaché à notre petite victoire du moment de là tout de suite. Ok, on peut avoir l'illusion que c'est mieux de recevoir un oui, mais sur le long terme, dans le milieu sex-positif dans lequel je suis beaucoup, quand il y a une pratique qui est quand on reçoit un non, de remercier pour le non, parce qu'on veut pas que les personnes se forcent à la fois pour elles, mais non plus pour nous.
Ouais. Ce que j'entends, c'est que quand on arrive à créer l'espace nécessaire pour que tout le monde se sente libre et, comme tu dis, en sécurité, de dire soit un vrai oui, soit un vrai non, c'est là où on gagne. Et la victoire, elle est que commune quand c'est un vrai oui, genre hyper enthousiaste et éclairé des 2 côtés. Et que si c'est un ouais, ou un non, mais j'ose pas te dire non, donc je vais dire oui. Ben, en fait, on perd ensemble ou on gagne ensemble, quoi.
Oui, parce que ça peut être aussi un, j'hésite, je veux bien essayer, et là, on peut essayer, quoi. On peut dire, ok, bah, on y va, et puis on se check, on vérifie au fur et à mesure si ça nous convient.
Tu dirais que c'est quoi, du coup, dans ce sens, des bonnes pratiques ou des réflexions importantes pour essayer de construire ce cadre où, un, on se sent libre de dire oui ou non, et deux, on se sent en sécurité de dire non et que ce soit bien entendu par l'autre.
Pour moi, la première chose, c'est déjà oser proposer et demander. Parce que je sais qu'avec ces notions de consentement, parfois, ça peut immobiliser les personnes. Les personnes peuvent ne pas oser de peur de recevoir un non, mais de peur aussi de forcer l'autre. Rien qu'en lui demandant, parce qu'on a tellement appris à ne pas dire non qu'effectivement il y a un risque à demander que l'autre se fasse.
C'est clair qu'on est bien entraîné à ça, à tais-toi, fais ce que je te dis. Hein.
Ouais, c'est ça. Donc pour moi, c'est déjà oser faire des demandes. Mais ces demandes, il y a des manières de le faire qui permettent que les gens ne se forcent pas. Déjà, dédramatiser le non soi-même, parce que parfois on a tellement peur d'avoir un non qu'on met une pression sur « s'il te plaît, me dis pas non, quoi ». Donc déjà, être dans cet état d'esprit de « si je reçois un non, c'est super, en fait ». Ça veut rien dire sur moi, ça veut juste dire que l'autre me donne sa vérité de ce qui est juste pour lui ou pour elle. Et il y a un truc à dédramatiser autour du non. Et aussi, pour dédramatiser ce non, voir que j'ai plein de possibilités. Si je prends l'exemple du business, voilà, ça... J'espère, je vous souhaite que votre business ne dépende pas du oui de une seule personne. Sinon, on est mal barré et il faut trouver une autre stratégie. Donc voilà, voir que cette personne, elle s'inscrit dans un champ des possibles et qu'il y a plein d'autres personnes avec qui travailler, avec qui ça peut être super. Donc, célébrer le non. Et ensuite, dans la manière dont on fait notre proposition, il y a plusieurs astuces. Ça peut être faire plusieurs propositions pour qu'il y ait plusieurs options. Ça peut être préciser que le non est bienvenu. Et si on reçoit un non ou un je sais pas, confirmer ce truc-là, dire ok, très bien, cool, merci pour ton non. Éventuellement, est-ce que je peux te faire une autre proposition? Voilà, ça peut être aussi vérifier si c'est OK pour l'autre qu'on lui fasse des propositions. Et ensuite, ça peut être aussi laisser l'espace à l'autre de réfléchir. OK, bah, je te laisse revenir vers moi, si t'es intéressé. Est-ce que je peux te relancer quelquefois? Voilà. Mais globalement, c'est informer l'autre sur le fait que c'est vraiment OK un non et qu'on a envie de trouver un terrain qui soit joyeux pour tout le monde, quoi.
Ouais. Et je trouve que ce que tu mentionnais tout à l'heure, cette petite pratique de remercier les gens pour leur nom, c'est quelque chose qui contribue à ça, je trouve, à un, le dédramatiser, parce qu'en fait, quand il arrive, on le célèbre ensemble comme une super victoire. Ok, on a trouvé un truc avec lequel t'es pas ok. C'est trop bien.
Et
on se rapproche
de...
T'as pu le dire. Grave, super. Et en même temps, bah, peut-être que ça nous permet de nous rapprocher vers une manière d'interagir, que ce soit dans le perso ou dans le pro, qui en fait est génial pour toutes les deux. Et du coup, de le voir comme ça, effectivement, je trouve que c'est un bon premier pas pour aller vers créer cet espace. Et je renote aussi ce que tu dis sur l'espace entre la stimulation et la réponse. Et on voit malheureusement dans énormément de pratiques du web marketing avec le côté en mode... tu te connectes à un webinaire, il y a une offre qui disparaît dans les 30 secondes qui suivent et t'es en mode « et t'as pas le temps de décider. Merci. Effectivement, ça peut introduire une forme de biais, je crois, surtout sur des décisions importantes.
Tu peux acheter des trucs n'importe quoi qui te correspondent pas, en fait.
Et en même temps, il y a une dose intéressante là-dedans pour créer. Je crois que c'est un truc sur lequel on est assez d'accord sur ça, c'est... il faut créer le cadre nécessaire pour accompagner la décision et parfois mettre une deadline, ça aide à décider.
Ouais.
Parce que pas de deadline, on décide jamais potentiellement sur certaines choses. Et en même temps, faut que ce cadre, il soit respectueux de aider l'autre à dire non si c'est un non.
C'est ça. Et il y a aussi une justesse à trouver pour la personne qui propose. Parce qu'à un moment donné, si la personne, elle met un mois pour se décider et que nous, on est juste en attente, il y a aussi une justesse à trouver de, bah, moi, en fait, ma limite, d'attente, elle va jusque là. C'est dans les deux sens qu'il est important de respecter les limites. Et pour moi, en fait, finalement, tout est dans l'intention. Est-ce que mon intention, c'est d'utiliser ce levier qui est un biais, ce levier de pression pour que les gens disent oui absolument, ou est-ce que je vois que bah en fait ça, moi ça me met en insécurité de pas savoir si les personnes s'engagent à partir d'un certain moment quoi. Donc je mets une limite de temps pour la prise de décision.
Ouais.
Et ça c'est pas du tout la même posture et de la même manière pour la partie révocable. Parce que, en tout cas, en termes de sexualité, il y a aussi la notion que le consentement est révocable. Mmh. C'est-à-dire que si tu dis oui quelque chose à un moment, ça peut être non après. Yes. De nouveau. Donc, effectivement, on peut changer d'avis. Et on peut se rendre compte qu'on n'a plus envie d'une chose, ou voilà. Donc c'est cool qu'il y ait un temps pour changer d'avis, mais il y a aussi, pour la personne qui propose, si elle investit du temps, de l'énergie, de l'argent, de la disponibilité, qu'elle donne pas à quelqu'un d'autre, bah faut aussi que ce soit juste pour elle qu'elle s'y retrouve. Par exemple, s'il y a un engagement financier, si quelqu'un me dit oui pour un de mes services, et que je prépare tout ça, que je m'investis, que je laisse du temps pour ça, et que je compte sur cet argent-là, et qu'ensuite on me dit non, bah ça me paraît pas très juste non plus que du coup y ait pas un dédommagement au moins.
Ouais.
Donc voilà, il y a de la justesse à trouver de part et d'autre, et aussi on parlait du fuck yes, mais il y a aussi le je sais pas trop, j'hésite, etc. Et là, on peut chercher ensemble des modalités qui peuvent faire que, bah, on essaye, on check régulièrement si ça fonctionne, si ça fonctionne pas. Et là, c'est au cas par cas, ouais. Trouver un cadre qui sécurise les deux parties, en fait.
T'es grave ok, t'es grave motivé pour le faire. Et c'est juste une question de condition. Alors que si je m'arrête au premier non, je suis en mode déteste, ne veux pas sortir avec moi. Mais en fait, on s'arrête à ça. Et
oui,
c'est dommage.
Le non aussi est révocable.
Oui, le non est révocable aussi. Mais je trouve que c'est hyper intéressant de se dire du coup, le plus important, c'est le cadre. Ouais. Parce que si on a le cadre, si on a la sécurité, ça ouvre les portes d'explorer que, bah, en fait, peut-être que cette première proposition que je t'ai faite, elle est pas 100% adaptée, donc est-ce que t'es ok qu'on explore d'autres potentiels de collaboration? Oui, ok, super, bah explorons ensemble. Et ça, je trouve que ça, bah, ça met presque du jeu dans la matière, tu vois. C'est pas en mode, je propose un truc et je me prends un non, c'est la fin de la vie, ou un oui, c'est la célébration. C'est plus, bah, jouons à trouver comment on fait pour faire mieux ensemble que séparément. Et ça, je trouve, ça met, ouais, plus de joie dans la démarche, notamment la démarche de la prospection. Est-ce que,